RFI, il est 7h en temps universel, 8h à Paris et à Belgrade.
RFI Matin.
Le journal avec Clotilde Dumay.
À la une, la mobilisation contre la corruption qui se durcit en Serbie. Des dizaines de milliers de personnes attendues dans les rues de Belgrade sous tension maximale. Nous serons sur place en direct dans un instant. La nouvelle réunion à distance depuis Londres avec une vingtaine de dirigeants prêts à participer au maintien de la paix en Ukraine en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Les élus allemands, eux, se sont accordés sur le plan du futur chancelier qui prévoit d'augmenter les dépenses pour la défense. Le Hamas se dit prêt à libérer un otage israélo-américain et à rendre la dépouille de 4 autres dans le cadre des négociations toujours en cours pour la suite de la trêve dans la bande de Gaza, où l'aide humanitaire est toujours bloquée par Israël et où la situation est particulièrement difficile pour les personnes blessées, handicapées. Et puis de moins en moins d'éclairs dans le ciel du port de Singapour, le plus grand du monde et l'un des plus pollués. Et on verra justement que l'activité humaine n'y est pas pour rien.
La tension est palpable ce matin en Serbie.
Avant une nouvelle manifestation qui devrait rassembler des dizaines de milliers de personnes et faire trembler le président Aleksandar Vučić. Nouvelle étape donc dans la mobilisation contre la corruption, plus de 4 mois après l'effondrement meurtrier d'un auvent de la gare de Novi Sad. Laurent Rouy, vous êtes en direct de Belgrade où des incidents ont déjà eu lieu cette nuit, hein, Laurent?
Alors effectivement, des incidents ont eu lieu puisque un professeur et un élève vers 3h du matin ont été agressés devant l'entrée d'une des universités qui est occupée par les étudiants dans le cadre de leur mouvement de protestation. On ne connaît pas la nature exacte des blessures qu'ils ont subies et on ne sait pas si la police qui a été contactée a arrêté les auteurs de cette agression. Par ailleurs, il y avait une forte tension hier en même temps que les scènes de liesse de l'arrivée des marcheurs et des cyclistes qui avaient traversé la Serbie pour arriver donc à la manifestation de demain et qui ont été accueillis par plus de 30 000 personnes dans les rues. Il y a eu des incidents au niveau du camp des Provucic, qui est notamment protégé depuis 2 jours par 2 rangées de tracteurs et 2 rangées de barrières métalliques et avec la présence de nombreux policiers anti-émeutes. Eh bien, les tracteurs ont été abîmés et des jets de projectiles ont eu lieu, notamment des Provucic vers la population. Encore une fois, donc des dégâts matériels légers au cours de ces incidents.
Et le président serbe Aleksandar Vučić dénonce, lui, Laurent, un coup d'État.
Alors effectivement, hein, et il dans une déclaration assez martiale, il a appelé les manifestants à rester calmes, je cite, pour ne pas qu'ils me supplient ensuite de les amnistier plus tard. Donc ça donne une idée de l'ambiance à Belgrade. Et puis également, notons la réaction de la présidente du Parlement, Ana Brnabić, donc qui est une proche d'Aleksandar Vučić, qui dit que c'est un coup d'État qui est en cours avec au final comme but final une tentative d'assassinat du président Vučić. Le président Vučić qui a interrompu la diffusion de 3 stations radio, qui a bloqué les trains en direction de Belgrade dans une tentative de diminuer le nombre de participants à la manifestation. Et puis également, les lignes de bus sont coupées et les télés pro-pouvoir se barricadent. On a pu observer des murs de béton qui se montent devant TV Pink, qui est notamment un des porte-voix d'Aleksandar Vučić.
Laurent Rouy, en direct de Belgrade pour RFI.
Un sommet virtuel ce matin avec des pays européens, l'OTAN, le Canada ou encore l'Australie.
Une visioconférence organisée depuis Londres avec une vingtaine de dirigeants prêts à aider au maintien de la paix en Ukraine en cas de cessez-le-feu avec la Russie, même si le Premier ministre britannique Keir Starmer estime pour l'instant que Vladimir Poutine ne prend pas la paix au sérieux. Le président russe qui a exprimé des réserves après la proposition de trêve des États-Unis et qui demande aux soldats ukrainiens de déposer les armes dans la région de Koursk où Volodymyr Zelensky reconnaît lui que la situation est très difficile. Dans ce contexte, le Parlement allemand devrait valider le plan de plusieurs centaines de milliards d'euros proposé par le futur chancelier Friedrich Merz, notamment pour augmenter les dépenses de défense. Un accord a été trouvé hier entre les conservateurs, les sociodémocrates et les écologistes. L'Allemagne, qui se dirige vers une véritable rupture dans sa stratégie budgétaire, à tel point que cela va donc nécessiter, Nathanaël Vitran, l'approbation des 2/3 du Bundestag pour changer la Constitution.
Car le plan Merz prévoit de financer une augmentation du budget de l'armée allemande sur fond de désengagement l'endettement américain par le recours à l'emprunt. Or, dans la foulée de la crise financière de 2008, l'Allemagne avait ancré dans sa constitution un frein à l'endettement, limitant fortement les capacités d'emprunt de l'État et des lenders. Pour contourner l'obstacle, le texte défendu par Friedrich Merz prévoit de sortir du calcul toutes les dépenses de défense supérieures à 1% du PIB. Une révolution après 20 ans d'orthodoxie budgétaire. Mais face au rapprochement de Donald Trump et de Vladimir Poutine, et alors que l'industrie allemande souffre à son tour, les conservateurs qui devront gouverner avec les sociaux-démocrates se sont convertis au keynésianisme. Autrement dit, l'heure est à la relance. Outre des investissements dans la défense, le plan prévoit de moderniser les infrastructures vieillissantes du pays, y compris en redonnant aux lenders, les grandes collectivités locales, le droit de s'endetter. Concession majeure obtenue par les écologistes, 100 milliards d'euros, soit un cinquième du plan, seront consacrés à des mesures sur le climat.
Et le vote des députés allemands aura lieu mardi prochain. Le gouvernement français se dit déterminé à poursuivre le redressement des finances publiques. Réaction de Bercy. Alors que la France échappe à une dégradation par Fitch de sa note de la dette, elle reste maintenue à AA- par l'agence américaine qui l'avait pourtant assortie en octobre dernier d'une perspective négative. Fitch estime que malgré son dérapage budgétaire, la France conserve une économie diversifiée avec des institutions fortes et efficaces. Une autre agence, Moody's, a décidé de son côté de sortir la Grèce de la catégorie spéculative et de remonter sa note en raison de l'amélioration des finances publiques.
Dans la bande de Gaza, le Hamas se dit prêt à libérer un otage israélo-américain et à rendre les dépouilles de 4 autres dans le cadre de négociations sur la suite de la trêve.
Mais la Maison-Blanche accuse le mouvement islamiste palestinien de vouloir gagner du temps alors que des négociations ont eu lieu cette semaine à Doha en présence de l'émissaire du président américain qui propose une extension de la trêve jusqu'à la mi-avril. En attendant, Israël bloque toujours l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne depuis presque 2 semaines. À Gaza, où 48 000 Palestiniens ont été tués depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, 110 000 autres blessés, Théo Renaudon, avec un quotidien de plus en plus difficile.
Pour les personnes handicapées, Gaza est un enfer à vivre au quotidien. C'est ce qu'a constaté la responsable des politiques de l'ONG Handicap International en Palestine, Mara Bernasconi. Elle revient d'un voyage à Gaza.
It's impossible. Pour eux, c'est impossible de se déplacer, impossible d'avoir accès à n'importe quel service de ceux qui restent, impossible de se mouvoir parmi les décombres avec des béquilles ou des fauteuils roulants. Et donc, ils dépendent toujours de leurs soignants et des membres de leur famille.
Et depuis le cessez-le-feu, les camps dans lesquels ces Gazaouis handicapés sont réfugiés se vident des personnes valides.
A lot of people. Beaucoup de gens ont décidé de partir et de retourner chez eux pour vérifier l'état de leur maison, si elles étaient encore debout. Pour les personnes en situation de handicap, rien n'a changé. Ils n'ont pas eu la chance de se déplacer et de retourner chez eux à cause des ruines. Rien n'est encore accessible et il n'y a pas de services.
Face à l'horreur de la guerre, les handicaps moteurs ne sont qu'une partie du problème. Les traumatismes mentaux, invisibles, eux, touchent une majeure partie de la population gazaoui.
Théo Renaudon, Pretoria dénonce une expulsion regrettable. L'ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis déclaré persona non grata par le secrétaire d'État américain. Il n'est plus le bienvenu à Washington, selon Marco Rubio, qui accuse Ebrahim Rasoul de nourrir les tensions raciales, de haïr les États-Unis et le président Donald Trump.
Toujours pas de nouvelles précisions de la part de la présidence congolaise sur une éventuelle participation à la table des négociations.
L'Angola a annoncé cette semaine que des discussions directes devaient s'ouvrir mardi prochain entre Kinshasa et le groupe armé AFCM-23 qui contrôle plusieurs territoires à l'est de la RDC. Mais la présidence congolaise n'a pour l'instant pas confirmé sa participation. En attendant, l'extraction est suspendue dans la mine de Bissier à l'est de la RDC. La société américaine Alphamine qui exploite ces 2 gisements d'étain, considérés comme les 3e plus importants au monde, justifie cet arrêt par l'avancée justement des groupes armés qui se dirigeraient, selon l'entreprise Alexis Bédu, vers la mine.
La sécurité des employés sous-traitants de l'entreprise ne peut être garantie selon Alphamine. La mine de Bissier est située dans le district de Walikale au nord Kivu. Le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda continue sa progression dans cette région au nord-ouest de Goma, se rapprochant de la mine à 100 km à vol d'oiseau. Bissier abrite l'un des gisements d'étain avec la teneur la plus riche au monde selon le Service géologique national français BRGM. Le site est très important, environ 10
17 000 tonnes de minerais y ont été extraites l'année dernière. C'est 6% de la production mondiale. Après l'annonce de la suspension de ses activités, les cours de l'État ont grimpé de près de 10% sur le marché des matières premières. Un élément à relativiser toutefois, les cours sont en hausse depuis plusieurs mois, notamment en raison du blocage de la plus grande mine de Birmanie, qui est le principal fournisseur de la Chine.
Alexis Bédu, direction Mars, fin 2026. Elon Musk annonce en tout cas vouloir y envoyer sa méga fusée Starship d'ici là. Pour le moment, SpaceX a envoyé sa fusée Falcon 9 en direction de la Station Spatiale Internationale avec un nouvel équipage à bord qui doit remplacer les deux astronautes américains bloqués dans l'ISS depuis 9 mois.
Et depuis la Terre, cette fois, on observe mystérieusement de moins en moins d'éclairs orageux depuis le port de Singapour.
Le ciel du plus grand port du monde de moins en moins électrique. 2 fois moins d'éclairs qu'auparavant depuis 2020. Un mystère auquel une équipe internationale de chercheurs apporte une réponse dans une étude. Les responsables seraient en réalité les nouvelles normes anti-pollution du trafic maritime, justement mises en place, Simon Rosé, la même année en 2020.
Quel est l'effet des activités humaines sur les orages? C'est une question à laquelle s'intéressaient météorologues et climatologues qui a trouvé un élément de réponse. Pour y parvenir, les auteurs américains et sud-coréens de cette étude ont eu l'idée de regarder de plus près une des zones les plus polluées du monde, le port de Singapour. 20% des ravitaillements du transport maritime mondial en fuel lourd y a lieu. Et surprise, en superposant une carte du trafic des navires à celle des éclairs, on s'aperçoit qu'elle concorde bien. Il y aurait donc un lien entre les deux et en 2020, un élément vient appuyer cette hypothèse. Les nouvelles normes environnementales adoptées par l'Organisation Maritime Internationale, elles visent à réduire drastiquement les émissions de soufre des cheminées des bateaux. Et depuis leur mise en place, quasiment du jour au lendemain, la foudre tombe presque 2 fois moins sur les voies de navigation singapouriennes. Ce seraient donc ces micro-particules de soufre et de suie émises par les bateaux qui favoriseraient la formation d'éclairs, démontrant ainsi l'affluence des activités humaines sur les orages. Les chercheurs vont désormais s'atteler à généraliser ce résultat, non pas à l'échelle du port de Singapour, mais à l'échelle mondiale.
Les explications de Simon Rosé, et puis 180 auteurs au programme, des dizaines de maisons d'édition présentes. La 4e édition du Salon du Livre Africain a débuté hier et pour tout le week-end à Paris. Et cette année, les écrivains du Brésil et du Cameroun sont mis à l'honneur. Reportage d'Olivier Roger.
Bienvenue sur le stand de Akomamba, maison d'édition jeunesse installée à Yaoundé.
Robert Nkwamou, imprimeur et éditeur, ne boude pas son plaisir de voir la littérature camerounaise mise ainsi à l'honneur au Salon du Livre Africain de Paris. Un événement indispensable pour des éditeurs africains qui peinent souvent à être distribués au-delà de leurs frontières nationales. Isabelle Cassifofana, créatrice de Masaya Édition en Côte d'Ivoire.
C'est vraiment une bonne adresse. Ça nous permet, nous qui ne sommes pas forcément distribués ici, de pouvoir voir l'instant de ce salon, de rencontrer des professionnels, de rencontrer un public qui est à la recherche aussi de nos ouvrages.
Et ce public, c'est souvent celui des diasporas vivant en France. Éric Monjour, créateur et directeur du salon.
La diaspora africaine en Île-de-France est très nombreuse et je trouve que l'idée de leur proposer quelque chose qui les concerne très directement a vraiment eu une importance sur le succès du salon dès la première édition.
Bien entendu, le succès du salon tient aussi au foisonnement créatif littéraire actuel. L'Afrique n'a jamais autant lu et écrit qu'en ce début de 21e siècle. De quoi réjouir la conteuse et autrice marocaine Halima Hamdan.
Et longue vie vraiment à ce salon qui mérite d'être un peu plus médiatisé, je dirais.
Voilà, le Salon du Livre Africain, donc à Paris jusqu'à demain.
Le journal de Clotilde Dumay. Merci Clotilde, il est 8h13 à Paris, 7h13 en temps universel. La revue de presse internationale avec Catherine Potet à la une. Catherine, les négociations pour la paix en Ukraine.
Négociations sur lesquelles les Européens entendent peser de tout leur poids. Le journal Die Welt nous dit en tout cas que les Européens veulent influencer les plans de Trump. Selon le quotidien allemand, des représentants allemands, britanniques et français ont été envoyés à Washington alors que le Premier ministre britannique Keir Starmer organise aujourd'hui une visioconférence de crise. Die Welt cite également des sources britanniques selon lesquelles une vingtaine d'États européens est prête à soutenir Kiev contre la guerre d'agression russe. Les Britanniques et les Français dirigent le groupe et veulent empêcher qu'un cessez-le-feu soit imposé à l'Ukraine, qui ne servirait que les intérêts de la Russie et ne tiendrait pas compte du fait que la Russie est l'agresseur. Les Européens exigent également que cette trêve aboutisse à une paix durable. Ils envisagent le déploiement d'une force internationale composée de soldats britanniques et français. C'est loin d'être gagné, comme le rappelle Die Welt. Poutine rejette catégoriquement le stationnement de troupes occidentales.
À lire également ce matin dans le journal Le Monde, cet article incroyable concernant les États-Unis, Israël et les Palestiniens.
Les États-Unis et Israël regardent vers l'Afrique de l'Est pour y envoyer les Palestiniens expulsés de Gaza, titre le quotidien français qui se fait l'écho d'informations recueillies par l'Associated Press. Quels pays en Afrique de l'Est ? Pas n'importe lesquels, des pays pauvres et en guerre, le Soudan et la Somalie. Il est aussi question du Somaliland, région sécessionniste de la Somalie. Les contacts avec le Soudan, la Somalie et le Somaliland reflète, estime Le Monde, la détermination des États-Unis et d'Israël à faire avancer un plan d'expulsion qui a été largement condamné et qui a soulevé de graves questions juridiques et morales. Parce que ces trois pays sont pauvres et dans certains cas déchirés par la violence, la proposition jette également le doute sur l'objectif déclaré de Donald Trump de réinstaller les Gazaouis dans une belle région, ajoute Le Monde. Le Soudan, toutefois, a refusé la proposition américaine. Le général Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige l'armée régulière, a déclaré lors d'un sommet des dirigeants arabes au Caire la semaine dernière que son pays rejetait catégoriquement tout plan visant à transférer les frères palestiniens de leurs terres sous quelque justification ou non que ce soit. Il n'empêche, ces informations confirment que le plan de Donald Trump, soutenu par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, d'expulser tous les Palestiniens de Gaza est loin d'être abandonné. L'idée d'un transfert massif de Palestiniens était autrefois considérée comme un fantasme de la frange ultranationaliste d'Israël, précise Le Monde. Mais lorsque Donald Trump a présenté cette idée lors d'une réunion à la Maison-Blanche en février, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou l'a salué comme une vision audacieuse.
L'administration Trump qui par ailleurs continue d'imprimer sa marque dans les institutions.
C'est le cas du célèbre cimetière d'Arlington en Virginie, cimetière militaire où sont enterrés plus de 290 000 anciens combattants. Or, les informations sur les militaires noirs et hispaniques et sur les femmes militaires, explique le Washington Post, ont disparu de son site web. Disparition assumée par un porte-parole du cimetière, affirmant que ses responsables travaillent pour garantir que le contenu publié sur le site soit conforme aux politiques de l'administration. Ce qui ne va pas de soi pour tout le monde, des historiens proteste, c'est le cas de Kevin M. Levin, historien de la guerre de sécession, qui estime la situation extrêmement regrettable, car dit-il, c'est exactement le genre d'histoire que nous souhaitons que les élèves apprennent. Une histoire qui leur permette aux élèves d'horizons différents de nouer un lien profond avec l'un de nos sites sacrés. Et l'historien conclut, les gens pensent qu'on pourra en quelques clics remettre ces sites web en état, mais je pense que nous allons avoir un réveil brutal en réalisant tout ce que nous risquons de perdre en termes de travail accumulé et de confiance bâtie au fil des ans.
La revue de presse internationale signée Catherine Potet.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanov.
8h18 à Paris, à la une de l'actualité ce samedi 15 mars. Des dizaines de milliers de manifestants attendus aujourd'hui à Belgrade, en Serbie. Mobilisation contre le pouvoir. Le pouvoir, lui, regroupe de son côté ses soutiens. L'ONU appelle les autorités à ne pas interférer indûment. Le président américain Donald Trump appelle son homologue russe à épargner la vie des soldats ukrainiens qui se battent à Koursk. Déclaration quelques heures après un appel téléphonique avec Vladimir Poutine. Poutine promet lui la vie sauve aux Ukrainiens qui déposeront les armes, alors que Volodymyr Zelensky, lui, président ukrainien, admet que la situation est très difficile pour son armée dans cette région russe de Koursk. Les États-Unis évitent le shutdown. Un budget provisoire vient d'être voté, évitant ainsi la paralysie des institutions. Vote validé grâce à quelques voix démocrates données à contre-cœur pour éviter donc ce blocage. Et puis en rugby, la France, sans son capitaine Antoine Dupont, va tenter ce soir de remporter le tournoi Destination. Il faudra pour cela battre l'Écosse, coup d'envoi à 20h, temps universel. La chronique science, ce matin on parle archéologie et physique avec vous Caroline Lachowski. Caroline, vous revenez sur une découverte stupéfiante sur le site d'Herculanum, tout près du Vésuve en Italie, celle d'un cerveau humain transformé en verre par l'éruption du volcan en l'an 79 de notre ère.
Pourquoi et comment un cerveau humain peut-il se transformer en verre? C'est l'anthropologue forensique Pier Paolo Petrone de l'Université de Naples qui le premier a repéré un étrange matériau brillant localisé au sommet d'un corps entièrement carbonisé, exhumé en 1960 dans un temple d'Herculanum, ville romaine située à 7 km du Vésuve. L'analyse au microscope électronique de ces fragments de verre noir a révélé des réseaux complexes de neurones et d'axones. Pas de doute, il s'agissait bien du premier cerveau de verre jamais découvert. Celui d'un jeune homme de 20 ans, probablement le gardien de ce temple d'Herculanum, retrouvé dans un lit, enseveli par les nuées ardentes, libéré par la monstrueuse éruption du Vésuve qui a enseveli Pompéi et Herculanum en l'an 79. Mais restait à comprendre comment un tel processus, la vitrification d'un cerveau humain, avait pu se produire. Une énigme pour les scientifiques, archéologues et vulcanologues qui, après avoir publié en 2020 leur spectaculaire découverte, ont cherché à reconstituer le cours des événements en faisant appel notamment à des physiciens spécialistes du verre.
Et alors que révèle cette nouvelle étude qui vient d'être publiée dans la revue Scientific Reports ?
Eh bien d'abord que le verre peut effectivement se former dans un environnement volcanique, mais pour que les coulées de lave vitrifient non seulement des roches dures, mais des tissus organiques, mous et pleins d'eau, il faut que cette extrême chaleur soit suivie très rapidement par un refroidissement aussi extrême. Et c'est précisément ce que montre l'analyse par calorimétrie et spectroscopie des échantillons du cerveau de verre. À partir de ces données, le vulcanologue Guido Giordano de l'université Roma III, premier auteur de cette étude, a pu reconstituer le scénario et valider l'hypothèse d'une nuée ardente initiale meurtrière sur Herculanum dès les premières heures de l'éruption, qui a laissé sur la ville un fin nuage de cendres brûlantes dépassant les 510 degrés Celsius, ce qui a suffi à tuer les habitants. Mais ces cendres se sont ensuite vite dispersées et c'est ce refroidissement rapide qui a enclenché ce stupéfiant processus de vitrification du cerveau. Et ce n'est que quelques heures plus tard que la ville entière d'Herculanum a été totalement ensevelie sous des coulées dites pyroclastique, c'est-à-dire par une avalanche de magma, de cendres et de gaz volcaniques. Comme le souligne le vulcanologue italien, la compréhension de ce scénario est essentielle pour la prévention des populations face au risque d'éruption volcanique actuelle. On sait désormais que même les premières nuées ardentes, très diluées, qui n'ont pas d'impact sur les structures ou les bâtiments, peuvent se révéler mortelles en raison de leur température. Et ça, c'est grâce au cerveau de verre du jeune homme, gardien du temple d'Herculanum.
Jusqu'où va la science, la chronique de Caroline Lachowski. Parce que seul aux manettes, ça peut lasser à force. Aujourd'hui dans la chronique Bienvenue dans le Game, on parle de ces jeux vidéo avec lesquels on ne fait plus cavalier seul et vous nous faites quelques recommandations, Jennifer Lufaux.
Oui, explorer un univers seul, c'est bien, mais à deux, c'est parfois plus fun. Le jeu qui fait sensation en ce moment est Split Fiction. Il a été développé par le studio Hazelight et c'est un jeu narratif coopératif sorti pas plus tard que la semaine dernière. Alors, on y incarne Mio et Zoé, deux écrivaines que tout oppose. Elles se retrouvent emprisonnées dans les mondes de fiction qu'elles ont créés et doivent trouver le moyen d'en sortir. Split Fiction a plusieurs particularités. D'abord son univers, ou plutôt ses mondes. En effet, alors que Zoé est autrice de fantasy, Mio, elle, écrit de la science-fiction. Imaginez ce que ça donne alors lorsque, par accident, leurs deux mondes se mélangent et créent des situations extraordinaires. Ajoutez à ça les personnalités opposées des personnages, des mécaniques de jeu stressantes mais hilarantes, et vous avez la recette d'un jeu qui va vous amuser à deux. Split Fiction est d'ores et déjà disponible sur PC, Xbox Series et PS5.
Et on passe à deux autres jeux. Le premier nous fera rire aux éclats.
Il s'agit de Heave-Ho. Dans ce jeu de plateforme et de puzzle, nous incarnons des personnages sans bras qui doivent se balancer et s'agripper pour atteindre la ligne d'arrivée. La coopération est essentielle pour progresser et les situations cocasses s'enchaînent à un rythme effréné. Heave-Ho, c'est un jeu simple mais terriblement efficace qui garantit des heures de fun. On enchaîne avec un jeu qui s'appelle It Takes Two et ça a été élu le jeu de l'année 2021. Ce jeu d'aventure et de plateforme, aussi développé par Hazelight Studios, nous plonge dans l'histoire d'un couple en crise, Cody et May, qui ont été transformés en poupées par un sortilège. Pour retrouver leur apparence humaine, ils devront collaborer et surmonter de nombreux défis. It Takes Two se distingue par son gameplay varié, son univers coloré et son scénario touchant. C'est vraiment un véritable chef-d'œuvre du jeu coopératif qui a séduit ou détruit, je pense, beaucoup de couples.
Et Jennifer, enfin, le même studio a aussi développé A Way Out.
Et oui, cette fois, direction la prison. Dans ce jeu d'action et d'aventure, nous incarnons Léo et Vincent, deux détenus qui tentent de s'évader de prison. L'originalité du titre réside dans son gameplay asymétrique qui demande une coordination parfaite entre les deux joueurs. A Way Out, c'est un jeu intense et immersif qui nous tient en haleine jusqu'au bout et je vous conseille de tester les différentes fins possibles pour ne rien rater. Changeons enfin d'ambiance avec Unravel 2, un jeu de plateforme et de puzzle à l'atmosphère poétique et contemplative. Nous y incarnons deux Yarny, ce sont des petites créatures de laine liées par un fil qui doivent explorer des environnements magnifiques et résoudre des énigmes en coopération. Unravel 2, c'est un jeu doux et relaxant qui nous invite à la réflexion et à la contemplation, en espérant que ce jeu vous aide à filer le parfait amour avec le joueur numéro 2, si vous aimez bien les jeux de mots.
Et on aime toujours des bons jeux de mots. Bienvenue dans le game, la chronique jeux vidéo, tous les samedis avec Jennifer Lufaux. Le wax, tissu coloré aux motifs variés, est l'un des textiles les plus populaires sur le continent africain. Son histoire, plus complexe qu'on ne le croit, et ses symboles sont explorés en ce moment dans une exposition à Paris, au Musée de l'Homme. C'est dans le cadre de la saison que le musée consacre à la migration. Un aperçu avec Olivier Roger.
C'était important de ne pas faire une énième expo sur l'histoire coloniale du wax.
Cindy Olohou, commissaire d'exposition.
C'était aussi un enjeu pour nous d'élargir, de montrer qu'aujourd'hui le wax porte des symboliques, des sens et des utilisations plus complexe que ça, que c'est un tissu extrêmement multiculturel et voyageur.
Les artistes ont donc toute leur place dans cette exposition. Les œuvres du peintre congolais Mosengo Shula, les installations de Shinzo Hanza ou encore les tenues du styliste Lamine Kouyaté rendent hommage au wax en tant que phénomène populaire. Lamine Kouyaté.
Ça a été un peu un élément d'émancipation, à la fois pour les indépendantes et pour les femmes aussi. En fait, c'était un tissu qui était plus ou moins accessible. On pouvait venir acheter et puis soit se faire confectionner un truc populaire aussi.
Le wax est aussi utilisé par les artistes qui dénoncent les maux de la société, comme les méfaits de la fast fashion. Cette exposition n'évacue pas non plus le débat sur l'identité du wax, un produit d'importation coloniale qui va devenir une sorte de page blanche pour dessiner de nouveaux imaginaires.
C'est aussi qu'à la différence des textiles natifs du continent, il n'était pas porteur d'une symbolique particulière.
Marie Merlin, muséographe.
À la différence des motifs caractéristiques d'une daube, du kente ou du bogolan, il est peut-être aussi arrivé vierge de ses investissements symboliques. Donc ça, c'est peut-être une des autres raisons de son succès.
Un tissu vierge de symboles, mais chargé d'histoire. L'exposition présente longuement le parcours du wax depuis l'île de Java en Indonésie jusqu'aux industriels européens qui mécanisent sa fabrication et diffusent les premiers motifs en Afrique. Et grâce au travail des commissaires comme Soloba Diakité, on découvre des marchands écossais sillonnant l'Afrique de l'Ouest comme Ebenez Brown Fleming.
Entre 1895 et 1912, il va développer plus de 200 motifs qui sont classiques mais qui continuent à être utilisés.
Ces motifs, d'abord inspirés des mythologies asiatiques, sont récupérés par les consommateurs africains qui y placent leurs préoccupations du moment. Les noms des pagnes en wax deviennent des emblèmes, des blasons ou des dazibao, Soloba Diakité.
C'est vrai que quand on pense au wax, on pense tout de suite « mon mari capable, chérie, ne me tourne pas le dos ». C'est vrai qu'on a toujours ces idées liées aux rivalités. Il montre aussi l'actualité politique. Donc, par exemple, dévaluation, le franc CFA, qui, en fin de compte, a fait grimper toutes les denrées importées. C'est aussi un marqueur de ce qui se passe dans les sociétés. Ce n'est pas uniquement dans la sphère familiale, mais c'est aussi politique.
Un tissu qui en dit tout autant sur ceux qui l'ont amené en Afrique, les colons, que sur ceux qui s'en sont emparés et qui, aujourd'hui, l'acceptent, le transforment ou le rejettent.
Qui a rampé jusqu'au wax ? Qui s'est caché sous le wax ? C'est le Mamba !
L'exposition sur le wax est à visiter jusqu'au 7 septembre au Musée de l'Homme à Paris. Vous trouverez aussi pas mal d'infos et d'explications sur le site du musée. Dans quelques minutes sur RFI, le retour de l'actualité africaine.
RFI Anne Zéricoré.
89.9 FM. Kaolack, 91.4 FM.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Comprendre les rapports des communautés à leur environnement, c'est l'ethno-écologie, une discipline qui permet aux différentes sociétés d'adapter leurs savoirs et leurs pratiques culturelles aux enjeux actuels. Cette semaine, nous partons à la découverte de l'ethno-écologie et son importance pour les zones rurales.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tout à l'heure à 13h10 TU, sur RFI.
BPM.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, on évoque la philosophie de Nietzsche, avec le parrain de la K-pop, le coréen G-Dragon. On salue la mémoire d'un virtuose du groove, l'américain Roy Ayers, et puis on fait l'anatomie du hook, une arme musicale d'attention massive. Êtes-vous prêts seulement ?
Bonne pulsation du monde, c'est tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.
BPM.